Paul Bodiquet a depuis des années une passion pour l'œuvre de Rembrandt. Par ce regard d'amour qu'il pose sur les toiles de ce maître hollandais, Paul Bodiquet en fait jaillir un message où le spirituel et le poétique se rencontrent. Les deux ou trois dernières années de sa vie, Rembrandt a peint Le retour du prodigue. Ce tableau, qui se trouve actuellement au musée de Leningrad, Paul Bodiquet l'appelle le tableau entre tous les tableaux. Nous vous proposons, aujourd'hui, d'entrer dans ce chef-d'œuvre. Laissons de côté les personnages sur la droite du tableau, qui ne sont probablement pas de la main de Rembrandt, mais par contre, contemplons le drame et la merveille qui se jouent entre le père et son fils.
Alors, le drame et la merveille, c'est donc cet homme, ce vieil homme, voûté, je dis souvent voûté comme un arc roman. Et en effet, la voûte profonde de ses épaules, de son corps, ça pèse les épaules sur un homme. Et ce qui pèse sur ces épaules-là, avec le visage qui s'intègre parfaitement à cette voûte romane, et qui se prolonge par les deux bras et les deux mains posées sur les épaules du fils, lequel est agenouillé devant le père, ou plutôt précipité à l'intérieur du père. Et cette structure du père, cette architecture du père, comme j'aime dire, dessine une sorte d'ovale, d'amande, qui est en fait l'amande d'orle. Cet ovale, cette amande de gloire qu'on trouve au tympan des églises romanes et qui a comme source, comme archétype, si on peut dire, l'ovale géniteur de la femme. La première fois que j'ai parlé de ce tableau, je disais l'ovale géniteur de la femme. Et ce n'était pas un pur rapprochement gratuit des formes. C'est quand même le fait qu'à l'intérieur de cet enlacement des mains, du visage, des épaules, où se situe le visage du fils. Le fils est en train de naître, ou plutôt de renaître, d'après la parabole. Il y a un engendrement mutuel du père et du fils. Car il y a là, donc, tout le thème de la parabole du prodigue, qui est, je pense, un texte de portée universelle est connue d'à peu près tous, hein, ce fils, bon, qui, ce jeune, le plus jeune des deux, comme par hasard, qui décide d'aller vivre sa vie. Il demande qu'on lui donne sa part d'héritage. Le père, d'après le texte évangélique, ne le retient pas de force, lui donne sa part d'héritage, le laisse partir, et puis alors c'est l'aventure. D'abord tonitruante et joyeuse, et puis petit à petit la disette, la famine, ce juif qui devient gardien de porc, le comble de la déchéance, et qui rêve après les caroubes que mangent les porcs, et qui se met à rêver après la maison familiale, où il se dit là-bas, le dernier des domestiques a au moins mangé à sa faim. Alors petit à petit naît en lui, au cœur même de l'errance, dont on verra quelle importance elle a pour l'accès définitif à soi-même. Au cœur de l'errance, il rêve de la maison familiale en se disant « il faut que je retourne vers mon père, que j'essaie de me faire ouvrir la porte et que je demande d'être simplement le dernier des domestiques. » Car la culpabilité, au sens le plus enfermant du mot, littéralement empoisonne son cœur. Alors il revient, lourd, marqué de tous les stigmates de son errance, de toutes ses blessures. On voit dans le tableau de Rembrandt, il a encore le poignard à la ceinture. Stigmate ou signe de « on aime mieux ne pas trop savoir ». Il revient en préparant longuement, on dirait sa confession. Et quand il arrive...